Jeudi 21 juillet 2005.
Ô Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie, nous le jurons, tous tu vivras toujours grande et belle, et ton invincible unité aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté. Aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté.
Salut, c'est le Podmag numéro 7. Le 21 juillet, c'est la fête nationale belge et c'est l'occasion pour le Podmag de s'intéresser au podcasting belge francophone. La Belgique est surprenante en ce qui concerne la baladodiffusion. Autant les podcasts que l'on trouve sont soit de qualité, soit précurseurs dans leur domaine, autant ils sont peu nombreux. Une radio nationale, un premier ministre, voilà les podcasteurs que l'on trouve en Belgique. Mais avant de voir le sommaire de ce nouveau numéro, nous allons écouter les messages laissés sur le répondeur de France Podcast.
Salut, vous êtes sur le répondeur de France Podcast. Vous pouvez laisser vos commentaires audio sur ce répondeur. Bonne journée.
Allô, bonjour. Donc c'est Jérémy, un auditeur du Podmag. Je suis étudiant et j'habite près de Mulhouse. En fait, je voulais laisser un commentaire par rapport aux émissions 4 et 5 en fait de ton Podmag, parce que je trouve que ça se recoupe un peu. Je découvre le podcast par iTunes, hein. Je savais que ça existait, mais je m'étais jamais trop intéressé à ça. Et là, comme c'est devenu simple avec iTunes d'Apple, et que c'est les vacances et que j'ai du temps, je m'y suis mis et j'écoute à fond toutes tes émissions que j'adore. D'ailleurs, un grand bravo pour tout ton boulot, c'est vraiment super. En fait, je voulais surtout réagir par rapport à l'interview que tu as fait avec les Suisses là. Et il se trouve que je connais pas trop mal la Suisse pour y avoir vécu et 2 ans et demi quand j'étais petit, mais bon, quand même, ça crée des liens. Puis j'habite en Alsace, pas trop loin, donc je regarde pas mal la télé suisse. Et puis je connais aussi des gens qui sont vraiment suisses, eux, qui habitent dans le canton de Genève. Enfin bon, passons. Je voulais répondre à ces gens qui et à la question que tu as posée sur la Suisse, pays de liberté et démocratie. Alors eux, ils ont répondu non, mais évidemment que c'est un pays beaucoup plus libre et avec beaucoup plus de débats qu'en France. Alors eux, comme ils y habitent, ils trouvent qu'ils n'ont pas de débat et que c'est pas suffisant. Mais alors par rapport à la France, ils sont vachement en avance. Et il n'y a qu'à voir même leur télévision, la TSR, il y a des émissions, hein, beaucoup plus de débats qu'en France, le temps qu'on nous sert dans les médias, enfin bon. Ouais, moi la meilleure preuve que je veux donner à tout ça, c'est leur projet là, c'est un projet suisse. Et en France, il n'y a rien qui existe dans le même style. Alors, en France, personne donne trop son avis, personne donne trop ses opinions. Et c'est ça qui m'amène aussi au Podmag numéro 4 où tu as interrogé Luc Saint-Élie, parce que lui, il se plaignait de pas avoir assez de gens qui réagissent, pas assez de réponses et tout ça. Mais alors, c'est sûr que par rapport à ça, en France, aucun débat. En Suisse, gros débat quoi à ce niveau-là. Et ouais, enfin, ça montre vraiment, à mon avis, que la Suisse, c'est le pays de débat. Et alors en France, Luc Saint-Élie, il attend qu'on fasse exploser son répondeur. En attendant, les Suisses, ils se lancent, ils donnent leur avis, un peu comme Luc Saint-Élie d'ailleurs. Ils donnent leur avis et je trouve ça vraiment cool. Moi, je pense que la France, à ce niveau-là, et les Français ont besoin de s'investir beaucoup plus dans la politique, dans les débats, et que la Suisse, ils ont eu beau répondre que c'était pas un pays de débat, je peux te dire que ils sont très très loin devant nous, quoi. Voilà, mais écoute, c'est ce que j'avais un peu envie de te dire. Ça fait drôle de parler à un répondeur, mais voilà, je me lance. J'espère que mon message a été compréhensible, et puis bon courage pour la suite de ton Podmag. Voilà, salut.
Oui, bonjour messieurs, ici l'avocat de audioblog.fr. Mon client m'a demandé de vous faire savoir que contrairement à ce qui était indiqué dans le dernier Podmag, il n'avait rigoureusement rien contre l'AAC, voire même qu'il trouvait un peu stupide l'affirmation selon laquelle l'AAC était propriétaire alors que le MP3 était ouvert, parce que l'AAC et le MP3, c'est la même chose. L'AAC, c'est la version audio du dernier, de la dernière spécification MPEG, et le MP3 correspondait à la même chose pour la spécification précédente, de tête, si mes souvenirs sont bons. Et donc aucun des deux n'est ni propriétaire ni ouvert. Ce sont deux formats qui font l'objet de licences, je crois. Si on veut créer un baladeur MP3, il faut les payer des royalties à Thomson ou Bahnhöfer Institute en Allemagne. Donc vos déclarations sont un scandale, en conséquence de quoi vous aurez bien l'amabilité de verser à mon client la somme de 254 372 € dans les meilleurs délais, faute de quoi nous engagerons à votre encontre toutes les mesures que la loi met à notre disposition. Merci, monsieur, mes hommages. Au revoir.
Deux petites réponses assez courtes. En ce qui concerne le premier message qui parle du podcast Entre Mondes, alors cela n'a pas de rapport direct avec le message, mais je voulais profiter de l'occasion pour lancer quelques petits conseils aux actuels ou futurs podcasteurs. Tout d'abord, essayez de ne pas trop copier les standards actuels de la radio. Trouvez votre style. Il n'y a pas de bon ou mauvais podcast, du moins dans la forme. Ce qui prime, c'est le fond. Ensuite, ici, nous nous intéressons aux podcasts francophones. Alors oui, nous parlons tous la langue française, mais nous avons tous nos spécificités, nos cultures, nos façons de penser, et c'est cela qui fait la force de certains podcasts. N'essayez pas de formater votre podcast et d'en faire un podcast adapté à tel ou tel pays. Les grands médias télé ou radio le font déjà et le feront dans le podcasting lorsqu'ils arriveront. La force justement du podcasting amateur, c'est sa liberté. Les radios libres des années 80 sont devenues les radios d'aujourd'hui et à cause de l'audience, elles proposent toutes aujourd'hui le même genre de contenu aseptisé pour faire plaisir à la masse et aux annonceurs. La deuxième réponse s'adresse directement à Son Altesse Sérénissime Luc Saint-Elly d'audioblog.fr. Je m'excuse bien bas, Luc, pour cet affront que je t'ai fait et te propose un arrangement à l'amiable. Plus sérieusement, si vous souhaitez laisser un message ou réagir à ce que vous entendez dans le Podmag, n'hésitez pas à appeler le 08 70 44 88 13. C'est le prix d'un appel local. En dehors de France, composez le 00 33 870 44 88 13 ou sinon utilisez Skype en appelant France Podcast tout attaché. Vous pouvez également me laisser un petit mail, alors je vous donne mon mail, c'est julien.vankaneghem@gmail.com. Je vous invite plutôt à aller directement sur le site de France Podcast pour voir l'orthographe correcte, ça sera plus simple pour vous. Au sommaire cette semaine, des nouvelles de Mojtaba Saminejad, Free qui réagit à l'augmentation de sa bande passante et sa première victime est Pom 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 Pom, deux logiciels pour publier vos podcasts Rapid Weaver et Loudblog, et enfin les votes pour les Podcast Awards, cérémonie de prix donnée aux meilleurs podcasts. Notre ami Bertrand Lenôtre concourt dans la catégorie Non-English, alors soyez nombreux à voter pour lui. Fête nationale belge oblige, nous nous intéressons cette semaine au podcast belge. Nous verrons le podcast du Premier ministre belge, celui de la radio Nostalgie, mais belge. Et on finira par Blogging the News, excellent podcast traitant de l'actualité. Enfin, l'invité de la semaine est Dab de Blogging the News. Il nous parlera de son podcast, du journalisme et de ce que le podcasting apportera comme avantage dans le futur. Nous étions plusieurs podcasteurs et blogueurs à vous parler régulièrement de Mojtaba Saminejad, ce jeune blogueur iranien qui a déjà été condamné à 2 ans de prison pour insulte envers le guide suprême et qui risquait la peine capitale pour insulte envers les prophètes. Un premier combat a été gagné puisqu'il a été relaxé de cette dernière accusation. Il ne risque donc plus la peine capitale mais reste tout de même en prison. Le combat doit continuer pour lui et pour la liberté. Reporters sans frontières nous précise également qu'un autre blogueur et un cyberjournaliste, Mohamed Reza Nassab Abdoli et Mojtaba Lotfi, sont eux aussi en prison depuis février en Iran. Avec l'arrivée d'iTunes et l'explosion des bandes passantes qui s'en est suivie, Plusieurs podcasts se sont inquiétés de leur hébergement chez Free. Ils avaient peur d'être coupés. Eh bien, Free vient de réagir et sa première victime a été Pomcast.com qui vous propose le podcast Pom 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 Pom. Mardi, leur hébergement a été coupé, ce qui leur a posé quelques soucis. Aujourd'hui, ils ont trouvé une solution de rechange, donc il n'y a plus de problème pour télécharger leur podcast. Mais bon nombre de podcasteurs risquent de se trouver dans ce cas. Et cela va leur poser un sérieux problème dans les semaines à venir. Depuis 15 jours, plusieurs podcasteurs s'en étaient déjà inquiétés. Free était resté étonnamment discret. Ce n'est plus le cas, il a procédé comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il a coupé sans prévenir. Rapid Weaver est un petit logiciel proposé par RealMac au tarif de 30,85€. Comme le nom de l'éditeur l'indique, le logiciel est réservé au Mac. Il permet de créer très facilement des sites web traditionnels ou des blogs. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'ils viennent de mettre à jour Rapid Weaver et que le logiciel gère maintenant les flux RSS 2 et permet l'ajout de podcasts. Rapid Weaver est donc une solution très simple de publication de podcasts. Alors même si vous pouvez transférer votre site sur n'importe quel hébergeur, son avantage réside dans la facilité de mettre le site sur votre compte .mac. Mais attention, Apple vient de décider de bloquer la bande passante des comptes .mac à 3 gigaoctets par an ou 10 gigaoctets par an moyennant 45€ de plus. Alors si votre podcast n'est écouté que par vos amis, cela ne posera aucun souci, mais si vous commencez à avoir quelques auditeurs, cela deviendra problématique. À titre d'exemple, Pom 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 avait parfois des trafics de 40 gigas par semaine. Autre logiciel, il s'agit de Logblog. Alors là, c'est un CMS, c'est-à-dire un Content Management System. C'est l'équivalent de MovableType, de WordPress, de DotClear pour les plus connus. Son avantage par rapport aux autres, c'est qu'il intègre des outils nécessaires à la publication de podcasts. Alors certainement que les autres vont réagir, mais c'est en tout cas le premier à le faire. Par contre, il est complètement gratuit et l'équipe de podcast-france.com est en train de le traduire. Si vous souhaitez plus de renseignements, je vous invite à aller sur podcast-france.com et la traduction devrait arriver dans les jours qui viennent. On m'a souvent demandé la solution que je recommandais ou que j'utilisais en ce qui concerne la publication de podcasts. Alors moi j'utilise une solution assez simple, il s'agit de Viabloga. Viabloga est un hébergeur de blog qui a deux particularités. D'abord son esprit communautaire d'entraide et la deuxième c'est qu'il intègre directement quelques outils de publication de podcasts. Alors par exemple les liens RSS 2 sont directement intégrés à Viabloga, donc pas besoin de faire des enclosures pour les MP3 ou les AAC. Ensuite, le lecteur DuPlayer est également intégré, donc pas besoin de l'installer. Ce sont ces deux raisons, l'esprit de Viabloga et les outils qu'ils proposent, qui m'ont poussé à aller chez eux. Et aujourd'hui, je dois dire que je suis entièrement satisfait. Les Podcast Awards sont un peu l'équivalent des Oscars du podcasting. Les sites nominés sont tous américains ou anglais, en tout cas ils sont tous dans la langue de Shakespeare, sauf dans une catégorie, la catégorie non-English. Et c'est dans cette catégorie que notre ami Bertrand Lenôtre, le podcasteur et .blog.com, concourt avec son podcast Le Podcasteur. Alors il faut absolument que vous soyez le plus nombreux à aller voter pour lui, et cela avant le 31 juillet, date de fin des votes. Bertrand est le seul podcast francophone, alors votez, votez, votez pour Bertrand. Bertrand, si tu gagnes, c'est champagne à Grenoble. À la découverte des podcasts francophones, voici quelques exemples de podcasts belges que j'espère nous aurons dans nos pays francophones respectifs. Alors, qui connaît Guy Verhofstadt ? Alors, les Belges ne jouent pas, parce que pour eux, c'est assez simple. Les autres, eh ben, c'est le Premier ministre belge. Et sur son site, qui est le site officiel du Premier ministre belge, il a rajouté un flux RSS 2, un logo podcast, et hop, vous pouvez écouter le briefing de presse hebdomadaire du Premier ministre via podcasting. Alors, c'est sûr, il aurait pu mieux faire, et peut-être en faire un petit peu plus, mais c'est déjà pas mal, et surtout, c'est une première dans le monde.
Les inondations du 3 et du 4 juillet ont été reconnues officiellement comme calamité. L'arrêté royal a été approuvé aujourd'hui par le Conseil des ministres. Ça concerne la plupart des communes de province de Flandre orientale et occidentale, ainsi qu'un grand nombre de communes de la province du Hainaut.
Alors qu'en France, la première radio nationale à se lancer dans le podcasting est RTL, en Belgique, c'est Radio Nostalgie qui s'est mis au podcasting. Ils s'y sont mis il y a à peu près 2 mois, et c'est plutôt bien fait. Mais auditeurs français, ne vous réjouissez pas trop vite, il s'agit de Radio Nostalgie Belgique.
Nostalgie, les 400 secondes.
C'est notre dernier invité de la saison ce lundi, le ministre wallon PS des Affaires intérieures et de la fonction publique, Philippe Courard, bonjour.
Bonjour.
Alors vous rencontrez cet après-midi les présidents des intercommunales wallonnes.
Blogging the News est un podcast d'actualité tenu par DAB. Il traite l'actualité d'une manière intelligente et dans un format peu habituel. C'est assez surprenant et certainement que cela mérite qu'on l'écoute assez souvent, même si on peut ne pas être d'accord avec lui. C'est amusant et c'est tout à son honneur car c'est un peu le Luc Saint-Élie belge. Même si tous les deux ne sont pas vraiment comparables, ils ont tout de même un point de commun, ils sont tous les deux journalistes et assez critiques sur leur profession. Alors avant de le recevoir, écoutons un extrait de son podcast.
Et une attaque en descente de col aussi. C'est tellement beau à voir tous ces hommes qui grimacent et qui transpirent, tous ces muscles épilés en action. C'est très sexuel en fait le cyclisme. Enfin bref, tout ça pour dire que moi je n'y crois plus. 200 bornes par jour pendant 3 semaines avec seulement 2 jours de pause. Et tout ça à l'eau claire? Allez, soyons un peu sérieux.
L'invité de la semaine est donc Dab de Blogging the News et on écoute de suite l'interview qu'il a accepté de nous donner. Dab, bonsoir.
Bonsoir.
Ou bonjour même. Ça va commencer bien. Aujourd'hui, c'est le 21 juillet, fête nationale en Belgique.
Exact.
Et à cette occasion, mon invité, c'est l'auteur de Blogging the News. Alors Dab, comment tu as eu l'idée de créer Blogging the News ?
Oh, c'est un truc qui remonte à déjà il y a pas mal de temps. Je m'étais mis à la mode des blogs assez vite en fait. Dès que la plateforme 26 était apparue, je me suis mis à bloguer à ce moment-là. Puis l'idée a fait du chemin. Je me suis tenu informé de l'évolution des technologies dans un premier temps. Et puis j'ai acquis au fur et à mesure des outils pour pouvoir moi-même faire ce qui me plaît bien. Hein. C'est vrai que l'approche de l'information, c'est un truc qui moi... Me passionne, j'ai la chance de pouvoir en faire mon métier. Mais dans mon métier, je ne peux pas tout dire, évidemment. Il y a une sélection de l'information qui se fait, inévitablement. Et j'ai eu envie de pouvoir faire partager à d'autres certaines infos qui restaient parfois anonymes, dans le sens où l'intérêt des médias nationaux ne se porte pas forcément là-dessus. Et donc c'est pour ça que progressivement, je me suis mis au podcasting. Je pense que c'est le meilleur outil à l'heure actuelle pour pouvoir faire ce genre de choses.
Alors, Blogging the News, c'est un podcast qui traite de l'actualité, mais alors il la traite d'une manière non conventionnelle.
Oui, en fait, c'est pas le but. Le but, c'est pas de me mettre dans une non conventionnalité, c'est plus de me dire je fais un truc qui est à moi, enfin, qui me ressemble, entre guillemets. C'est-à-dire que je cherche pas à critiquer pour critiquer, c'est pas le but. C'est simplement qu'il y a certaines choses qui se passent dans le monde qui, en rapport à d'autres choses qui se sont déjà passées, me font réfléchir et me disent tiens, vers quoi est-ce qu'on va? Et voilà, je me permets de donner mon sentiment à moi. Alors d'un côté, je vais être à gauche de l'échiquier politique, d'un autre côté, je vais être à droite. J'ai jamais eu d'étiquette dans le dos et ça me dérange profondément en tant que journaliste d'en avoir une. Donc tant que je peux rester le plus neutre possible dans ce que je pense, je continue. Et de nouveau, le fait de pouvoir m'exprimer en dehors de mon métier officiel, c'est un truc, et je le dis dans le dernier post, c'est un truc qui est vraiment... quelque part libérateur de pas mal de choses. Le champ des perspectives en fait s'ouvre énormément. Je me rends compte du nombre de possibilités qu'offre Internet à l'heure actuelle.
Voilà. Alors, c'est amusant parce que tu as donné ton métier. Tu préfères garder l'anonymat. Bon, ça c'est des raisons qui te concernent vis-à-vis justement ta profession. Mais comment tu peux expliquer qu'il y ait autant de journalistes qui bloguent et maintenant qui podcastent? Et la plupart de ceux qui le font font la même remarque que toi, c'est-à-dire ils veulent podcaster ou bloguer parce qu'ils trouvent qu'ils sont pas libres entre guillemets de pouvoir dire ce qu'ils veulent dans leur profession, mm-hmm. dans leurs journaux ou dans leur radio.
Mm-hmm. Mais je pense que, enfin, moi je peux parler de ce que moi je ressens. Pour l'instant, je connais pas énormément de collègues proches de moi qui se sont mis à la démarche. Même parfois, je tombe un peu des nues parce que quand je pose la question de savoir des trucs comme qu'est-ce qu'un flux RSS, j'ai encore des gens qui me répondent qui sont complètement pas au courant. Donc, et même des journalistes, c'est ça qui est dingue, parce que pour moi, je me rends compte que l'arrivée des flux RSS a vraiment changé ma manière à moi de me tenir au courant moi-même. C'est un truc qui a été assez direct grâce à Firefox et les liens dynamiques qu'on sait mettre. Là, pour l'instant, j'en ai entre 300 et 350 que je parcours tous les jours, et la mine d'informations est exceptionnelle. Alors pour les autres journalistes, sincèrement, je n'en sais rien. Je pense que Lux Intelli a sa manière de faire du podcasting, de s'exprimer. C'est a priori très chouette. Moi, je trouve ça, plus il y en a, mieux c'est, parce que ça offre une multitude de points de vue. Et là, c'est enrichissant, c'est ça qui est gai. C'est le partage. Ouais.
Toi, tu penses que ce que tu dis ou la manière dont tu traites l'information, c'est impossible de le faire dans un journal traditionnel ou dans une radio traditionnelle, plutôt dans une radio, puisque tu fais du podcasting.
Mais c'est marrant parce que j'ai fait un peu de radio. Bon, à l'origine, j'ai fait la communication ici en Belgique. Donc, j'ai pas le diplôme de journaliste. Je suis pas sorti d'une école de journalisme. Et ce qui fait que j'ai été obligé, dans un premier temps, de me battre pour essayer de faire ce que j'aimais bien. Et je me suis retrouvé à faire des stages dans une télé locale, dans une radio locale, à vraiment tester les différentes manières de faire du journalisme. Il sait que maintenant je travaille en presse écrite, mais ça m'a permis de toucher aux différents aspects. Alors oui, m'exprimer ce que j'exprime sur mon blog dans un média traditionnel, pourquoi pas. Enfin, c'est le genre de choses. C'est le genre de choses qui peut se passer. Maintenant, je suis pas certain du tout que c'est le genre de produit que les radios attendent à l'heure actuelle. Le modèle commercial autour du podcast n'existe pas. En tout cas, est des plus flous. Il y a la pub, il n'y a pas la pub. C'est toujours l'éternel dilemme du journalisme, entre guillemets, c'est qu'il faut un mode de financement. Et les joyeux mécènes, il n'en existe plus des masses à l'heure actuelle. Donc c'est la loi du marché est là. L'info, c'est un produit comme un autre. Et dans ce cadre-là, exprimer ce que j'exprime sur mon blog de la même manière, je ne pense pas que les mentalités soient déjà prêtes pour ce genre de choses. Mais ça viendra, parce que les médias traditionnels sont obligés d'écouter ce que les blogueurs disent. On l'a bien vu avec les attentats de Londres. Hein. Ils sont perturbés par ça. Ils s'en félicitent, ils achètent les photos, mais ils sont perturbés par tout ça.
Mais d'un point de vue déontologique, c'est pas un problème justement de se dire que il faut obéir à des lois du marché, et que pour qu'un journal ou qu'une radio puisse vivre, il faut qu'il y ait de la pub, et pour qu'il y ait de la pub, il faut une information qui soit pas trop choquante, ou qui soit pas trop qui aille dans des normes un peu établies. C'est pas un peu choquant au niveau, je sais pas, vous avez peut-être une charte
Oui, bien sûr, mais c'est un petit peu la quadrature du cercle, hein, sur ce coup-là, parce qu'on se rend compte que tout étant lié et en revenant finalement, aller se dire avoir une liberté d'expression qui est totale. Je raconte vraiment tout, les faits, plus un commentaire, plus des appréciations de gauche ou de droite. On en arrive toujours à en donner ou à un autre, à se retrouver vis-à-vis des personnes qui nous ont donné une information. À devoir respecter cette source-là et elle-même, mais surtout veiller en tant que journaliste à ne pas se couper de sources d'information. Et malheureusement, à l'heure actuelle, quand on a le malheur de nous déplaire à l'attaché de presse ou à un ministre quelconque, c'est fini, on est blacklisté, et pendant un temps, on ne communiquera plus par vous, donc c'est votre boulot qui en pâtit, et il faut ménager la chèvre et le chou dans la vie professionnelle actuelle au niveau journaliste, je pense. Maintenant, c'est mon expérience à moi, je le répète, et je pense qu'il y a d'autres gens qui sont méchamment mieux placés que moi pour parler de tout ça, parce que je suis encore un peu le bide dans l'histoire.
Alors, Blogging the News, c'est un podcast d'actualité. La fréquence, c'est à peu près toutes les semaines.
Pour l'instant, je ne me suis pas fixé d'échéancier. Donc je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Ça se passe quand ça se passe, parce que y a le boulot, il y a la vie de famille, il y a tout ce qui va autour, et puis il ne faut pas non plus rester les yeux scotchés tout le temps sur ce week-end. Je pense pas que ce soit excellent non plus. Donc voilà, je me fixe pas d'échéance, je le fais quand ça me plaît, ça me prend du temps, mais une fois que je le commence, je le termine. Et là pour l'instant, il y en a trois. Le premier date du 2 juillet, je pense, un truc comme ça. S'il y en a 3-4 par mois, c'est je pense que c'est une bonne chose, puis on verra comment les choses évoluent.
Et un Blogging the News quotidien, donc c'est pas prévu.
C'est difficile de répondre à ça, parce que faire un podcast tous les jours, on m'assure que je gagne le même salaire qu'actuellement parce que j'en ai besoin, je signe à demain. mais à l'heure actuelle, non. Enfin, c'est impossible. Vu le temps que ça me prendrait, parce que bon, il n'y a rien à faire. Enregistrer, c'est une chose, mais il y a toute la préparation derrière, et l'écriture des textes, il y a le repérage des infos, parce que c'est. Mais c'est très gai. C'est éminemment. Moi, je prends un pied carabiné en le faisant. Donc, le faire tous les jours, ça ne me dérangerait pas. Mais à l'heure actuelle, l'aspect économique de la chose ne me le permet pas.
Alors, le nom, c'est Blogging the News. Pourquoi avoir choisi un podcast plutôt qu'un blog ?
Mais au départ, j'étais parti sur l'idée d'un blog. Hein, mais je savais pertinemment que j'avais envie d'utiliser les moyens que j'avais à ma disposition pour. Enfin, tout ce que j'avais sous la main. Il se fait que j'ai la possibilité d'enregistrer du son, il se fait que j'ai la possibilité d'enregistrer de la vidéo. Donc, c'est, pour l'instant, c'est un podcast. Ça deviendra sans doute un vlogcast par après. Pourquoi pas un site d'info tout court par la suite, parce que je pense qu'il va y avoir une convergence telle que continuer à saucissonner comme ça l'utilisation qu'on a des médias, bref, maintenant on est les médias, je pense. Ça fait partie d'un tout, et comme je dis, saucissonner les pratiques, je pense pas que ce soit bon. On parle de l'information, bah, je pense qu'en plus avec les blogs, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à partir du moment où il y a une connerie qui est dite, le retour de flamme est très rapide. Surtout à partir du moment où un blog commence à avoir un peu d'audience, une boulette qui se voit, elle est répercutée tout de suite. Et donc la franchise et la transparence qu'on réclame à ce moment-là du gars qui est en face, c'est de dire ok, je me suis planté, hop, je rectifie, je remets un truc, je rajoute une info, et voilà, et ça se construit. Une info n'est pas forcément un truc qui est donné sans dire on continue. Parfois, l'info est donnée, voilà, et ça permet de réagir, ça permet de discuter. Et ça, c'est l'essence même des blogs, c'est ça qui est génial.
Et tu as beaucoup de réactions suite à tes podcasts ?
Pas toujours autant que je souhaiterais, mais ça, je pense que c'est le cas de la grosse majorité des blogueurs. C'est clair que si on le fait, c'est pour avoir un retour. J'ai pas énormément de retours. J'ai eu des mails très sympas, dont un d'un étudiant en journalisme en Belgique qui termine ses études et qui a peut-être envie de se lancer dans le même genre de truc. Ça, moi, c'est un truc qui... Ouais, clairement, c'est très gai. J'en ai pas besoin de 150. Une comme ça, c'est bon, de temps en temps. Mais c'est vrai que la discussion s'engage, et il y a des posts qui ont 3-4 commentaires. Voilà, c'est tout. Si le sujet était clos après 3 commentaires, le sujet était clos, on passe à autre chose.
Et alors, les podcasts en Belgique, alors, ils sont... Le tien, en tout cas, est très très bien. Vous avez eu la chance d'avoir un gros média qui est Nostalgie Belgique, qui s'est mis au podcasting, mais c'est un peu le désert à part ça. Alors vous en avez pas beaucoup, ils sont de qualité, mais est-ce qu'il y a une raison au fait qu'il y ait si peu de podcasts belges ? En Suisse par exemple, ils font beaucoup plus de choses que ce que fait la Belgique.
Oui, c'est vrai. Avec AT Prod, ou je ne sais plus le nom exact.
ID Prod.
Voilà, ID Prod. Très sympa, avec de la vidéo aussi. Pourquoi est-ce qu'en Belgique ça marche pas ? Déjà, il faut pas, malheureusement, il faut pas confondre Belgique francophone et Belgique néerlandophone. Du côté néerlandophone du pays, je pense qu'en faisant une recherche assez rapide, on se rend compte qu'il y en a déjà pas mal. La chaîne publique flamande, la VRT, a mis 4 émissions disponibles en téléchargement en podcast. C'est vrai qu'il y a Nostalgie côté francophone, autre radio qui s'y est mis aussi. Pour avoir eu l'occasion de discuter avec le directeur des programmes de Nostalgie, visiblement c'est un truc qu'ils suivent déjà depuis un bon bout de temps, et ils comptent disons que la position de pouvoir éventuellement la proposition de pouvoir donner accès à des podcasteurs d'une manière ou d'une autre sur les podcasts d'énergie est une option réfléchie. Maintenant je pense qu'ils s'en sont à ce point là et puis maintenant je ne préjuge de rien, et ce n'est pas... Enfin, en tout cas, personne ne s'en étonne. Ça fait un bout de temps qu'eux avaient l'idée, ils développent le truc et on va voir ce que ça va donner. Ils ont des bons taux de téléchargement, avec des 3 JT, des émissions. Non, c'est une bonne initiative, je trouve.
Alors, est-ce que tu as des podcasts que tu écoutes régulièrement ?
Alors, les podcasts francophones que j'écoute régulièrement, je vais te dire ça tout de suite parce que je les ai notés. Le premier que j'écoute, évidemment, c'est Audioblog. Hein. Ça, il est dans ma liste depuis un bon bout de temps. Mais le tout premier avec qui moi j'ai eu un contact en donné, c'était avec Bertrand Lenôtre, dans une toute première ébauche du site que j'essayais de mettre en place. J'avais eu l'occasion de discuter un peu avec lui quand il était encore sur son autre plateforme, celle qu'il a lâchement abandonnée sans me prévenir. Et ça a été mon premier contact avec lui. Et depuis lors, il est dans ma il est dans mon agrégateur et j'écoute très souvent. L'autre que j'aime bien écouter, c'est Arte Radio. Je trouve les capsules assez géniales, pleines d'inventivité, de créativité. C'est génial. La sucothérapie, excellent. L'idée de faire ce genre de capsule radio, je trouve ça vraiment très très ouais très sympa. C'est une autre manière de faire de la radio. C'est aussi parmi les premiers, je pense, à l'avoir testé. Qu'est-ce que j'écoute d'autre régulièrement? Depuis celui que j'ai pu écouter sur le tien, j'ai mis Entremonde dans mon répertoire. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est vraiment de l'utopie, et c'est super bon d'avoir un peu d'utopie pour avancer et pour créer des trucs, parce que ça permet de se remuer les ménages. Donc ouais, je vais les écouter, et franchement, je sais pas, ils ont peut-être une démarche qui est peut-être un peu trop papouillée par rapport à moi. Ils disent des choses que moi j'ai pas envie de les dire, en tout cas pas de cette manière là. Mais intéressant, franchement, je trouve qu'ils sont pas mal là-dessus. Pot de feu de temps en temps, c'est parce qu'il est là depuis longtemps et que voilà, mais je les télécharge en tout cas. Inévitablement Point Block, ça aussi depuis le tout début. Point Block, franchement, de la référence, je pense, en la matière, en tout cas depuis un bon bout de temps, très très intéressant. Surtout des infos qui sont cherchées, qui sont grattées, qui sont fouillées. Il y a pas mal de liens qui mènent directement vers les sites anglais. C'est notamment grâce à eux que moi je me suis plongé dans la littérature anglaise disponible sur le net pour essayer de me tenir au courant de ce qui se passe. Et c'est vrai que les flux RSS sont assez géniaux. Le site de notre premier ministre, évidemment, le podcast de Guy Verhofstadt. Je l'avais noté, hein, c'est pas à proprement parler un podcast, c'est juste que sa conférence de presse hebdomadaire est enregistrée, découpée en séquences plus ou moins à la louche, et il balance le tout. Bon, moi le dernier, il date de 8 juillet, c'est un peu les périodes de vacances, donc il ne doit plus en avoir des masses pour l'instant. Mais à voir, je pense qu'ils ont eu tôt fait d'intituler ça podcast. Mais l'initiative est très bonne.
C'est surtout la première fois qu'il y a un Premier ministre, même si c'est des conférences, mais qui utilise ce genre de médias pour s'adresser à ses électeurs.
Oui, disons qu'une conférence de presse, c'est encore différent. Le jour où Guy Verhofstadt répondra à mes questions en direct sur Skype et que j'enregistrerai et que vous y aurez accès, là, j'appellerai ça du
podcast. C'est un appel officiel à ton Premier ministre pour une demande d'interview.
Ouais, mais alors je répercute l'appel vers tout le monde. Balancez-moi les questions que vous aimeriez que je lui pose, quoi, parce qu'il va falloir une sacrée batterie. Parce que, bon, de un, Guy Verhofstadt n'accorde pas facilement une interview, il ne fait qu'à des moments très, très précis, très choisis. Et puis je ne suis pas certain d'avoir les épaules à l'heure actuelle pour pouvoir me retrouver face à lui. Mais bien sûr, pourquoi pas.
Ça serait un super scoop.
Ça, ouais, je sais pas, peut-être, mais pour ça je pense qu'il faut une bonne dose de préparation. Et là, à ce moment-là, je crois qu'on pourra réellement parler de podcasting professionnel si ce genre de choses se fait. Mais ne tirons pas trop de plans sur la comète.
Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'effet iTunes justement sur le podcasting, et que certains podcasts se retrouvent avec une audience et un nombre d'auditeurs importants?
Je pense que c'est une bonne chose. iTunes a sauté sur l'occasion, ils ont généralement un pas d'avance et occupent le marché. Je pense que c'est une stratégie, enfin en tout cas, vu de mon point de vue à moi, j'ai l'impression qu'ils viennent occuper le marché, et puis on verra ce que ça donne. J'ai un peu peur de voir en septembre beaucoup de choses débarquer sur iTunes, d'éventuellement avoir de la pub qui est mise à un endroit ou à un autre. D'après un des porte-parole d'Apple Belgique, on ne peut rien dire. Ils ont strictement, c'est no comment, quoi. On en discute, on dit oui, éventuellement, c'est le genre de choses qui peut s'envisager, mais à l'heure actuelle, il n'y a rien de prévu, il n'y a rien, on communiquera en temps utile. Ah, c'est vrai que c'est la communication Apple, quoi.
Et si c'est quoi le podcast que tu aimerais pouvoir écouter en français, qui n'existe pas encore en français?
Je vais répondre comme ton dernier invité, c'est une difficile question, amène-moi un bloc-notes et je reviens dans quelques temps pour te dire quoi. Le podcast idéal. Moi, c'est marrant,
enfin, tes yeux, ou celui que tu aimerais, pas forcément idéal, ouais. Hein, il peut avoir des défauts,
ouais, mais
que tu aimerais absolument avoir et que tu trouves qu'il manque.
Qui manque? Ouais, c'est celui que moi j'ai en tête, évidemment. Non, sans, je pense qu'il y a moyen d'avoir une régularité plus grande. Il y a moyen d'être plus prompt sur la balle aussi. Moi, je pense qu'il y a moyen d'être plus réactif encore. Et bon, c'est vrai que quand, en tant que journaliste, moi, j'ai un peu une infotilité aiguë, c'est-à-dire que je suis tout le temps connecté, je suis tout le temps, avec des fils d'actualité sous les yeux. C'est presque viscéral de ce besoin de savoir. C'est même, mais c'est très gai. Bon, il se fait qu'il faut faire le tri et donc ça prend du temps. Si on veut du recul, il faut prendre le temps. Et le recul, pour moi, c'est indispensable. Il faut trouver la bonne balance entre l'immédiateté et une certaine prise de recul pour ne pas dire de conneries, pour être fiable, crédible, et à partir de là, pouvoir continuer à garder une liberté de ton et d'esprit dans ce qui est dit, à partir du moment où le contrat est clair entre les auditeurs et ceux qui produisent un podcast ou une quelconque émission, parce que je pense que la télévision et les images seront incontournables à l'avenir, donc voilà, on va voir. Moi, le truc qui me plairait vraiment bien, c'est de pouvoir en faire mon métier. Ouais.
Mais alors, une question qui a rapport avec ce que tu viens de dire. Il n'y a pas un problème au niveau des podcasts et des blogs, le fait que ça soit tenu par des amateurs, bon, même s'il y a des professionnels, toi c'est ton métier, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un podcast ou un blog qui puisse avoir une grosse audience et qui raconte des conneries, en fait, parce qu'il n'a pas de recul sur une actualité qui va recevoir. Est-ce que ça pose pas un problème, en fait, la rapidité de certains podcasts ou de certains blogs, mais enfin là c'est de certains podcasts, à traiter une information sans prendre aucun recul?
Mais disons que de nouveau la loi du marché s'applique dans ce cas-ci, et quand on est un média multimédia, entre guillemets, on se doit de réagir tout de suite. C'est difficile de dire. Il y a cette loi du marché qui est là derrière. Bon, c'est difficile de savoir comment le projet se passe dans la tête des rédacteurs en chef, par exemple. Comment le projet d'un journal, comment tout ça se passe et à quelle vitesse ça se passe. Parce que pour l'avoir vécu déjà à l'époque, parfois ça se décide sur des coups de tête et on remplit des journaux avec des avec des conneries, quoi. Et là maintenant, particulièrement en été où on ressort tous les sujets du frigo. Maintenant, pour les podcasteurs, est-ce qu'il faut être rapide ou pas? Ça peut être des versions. Moi, j'imagine très bien pouvoir avoir une série de podcasts de différentes réactivités, on va dire. Des podcasts plus creusés, d'autres plus à chaud, et toute l'échelle de temps est possible, puisque c'est téléchargeable quand on veut.
Mais il n'y a pas un danger, justement, que ce ne soit pas justement des gens qui ont cette habitude de traiter de l'information rapidement. Il n'y a pas un danger que ces personnes la traitent mal, puisque c'est pas leur métier au départ.
Tu veux dire des conflits éventuels avec des confrères?
Ouais.
C'est possible. Je doute de rien, évidemment. C'est clair que c'est un métier. Si on fait ce genre de métier et qu'on travaille en télé, en radio, il y a une question d'ego derrière. Hein, et j'en sais rien. Moi, je prône plus la collaboration. Et ceux qui veulent pas collaborer, tant pis pour eux. Je pense que j'en trouverai toujours pour collaborer. En tout cas, dans l'optique où ce genre de choses est possible. Et où, de nouveau, revenir au... Il faut un bon modèle économique derrière. Me lancer à l'aventure comme ça, seul, c'est hors de question.
Qu'est-ce que les gens autour de toi pensent de ce projet?
Du podcast en tant que tel, du fait de...
Ouais, de ton podcast, Blogging the News.
Bon, jusqu'à ici, j'ai eu des bonnes réactions. J'ai pas encore eu de gros. Il n'y a pas eu de clash, entre guillemets. On m'a pas encore dit que je m'étais planté. On m'a pas encore dit que je racontais n'importe quoi, que j'étais un poujadiste de la dernière heure. Pour l'instant, les réactions sont plutôt enthousiastes. Donc, moi, j'essaye de me fier à ça et au ton que j'ai pu adopter d'abord à la sélection de l'information que j'ai pu faire pour mettre dedans. De deux, le temps que j'y ai mis. De trois, c'est tout le boulot qui va autour. Et voilà, moi je me dis, les réactions pour l'instant sont bonnes, donc je continue dans la même voie. Mais je n'attends qu'une seule chose, c'est qu'il y ait des réactions qui me disent, pour faire ce genre de choses, tu ferais mieux de faire comme ça. Ou l'article que t'as abordé dans ce podcast-là, pourquoi est-ce qu'on n'interviewerait pas machin qui est en relation directe avec l'info et ça pourrait être intéressant. Moi j'ai un bon numéro de téléphone, tiens, je te le file. Merci, je le prends, hop, on le fait en collaboration, et voilà, et on se file des infos, on se file des bonnes pratiques, et on crée du contenu. Et quand le contenu est bon, Voilà, moi je pense qu'il y a moyen de créer du contenu qui a du sens et pas de nouveau que de la dope que ce qu'on voit en général. Même si la télé en général c'est plus pour se divertir maintenant que s'informer. D'ailleurs on le voit bien chez les jeunes, aux États-Unis je pense que les enquêtes le prouvent pas mal, les jeunes s'informent essentiellement sur le net. La télé les emmerde, ou alors les fait marrer, mais pas les informe pas.
Madame, je te remercie.
Voilà, bah écoute, c'était un plaisir. J'espère que j'ai pas été trop. C'était pas trop une logorée verbale, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'emballe. Et j'ai l'occasion d'en parler avec pas mal de gens autour de moi. Et c'est gai de sentir que ce genre de projet peut éventuellement aboutir. Et donc.
Mais rassure-toi, ce que tu as dit, c'était très intéressant. Tout comme ton podcast, Blogging the News, à qui on souhaite une longue vie et beaucoup de numéros.
Okay, c'est gentil.
À bientôt, Dab.
À bientôt.
Le Podmag numéro 7 est terminé. Enfin, merci d'être de semaine en semaine toujours plus nombreux à m'écouter. France Podcast avec le Podmag est le premier podcast francophone sur l'iTunes Music Store en France, en Belgique et en Suisse. Encore merci, bonne semaine, rendez-vous à lundi pour le Podmag numéro 8. Et surtout, podcastez bien.